Bonjour à tous, Yacouba Ouidraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui au sommaire en cette matinée du jeudi 15 août. Au Niger, 15 civils tués lors d'attaques terroristes dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays en début de semaine. Annonce faite hier par l'armée. L'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte mondiale sur l'épidémie des Mpox. Les États-Unis appellent l'armée soudanaise à rejoindre les discussions sur un cessez-le-feu au Soudan qui ont débuté hier en Suisse. Les attaques terroristes du groupe Boko Haram dans la région du bassin du lac Tchad et les effets du changement climatique qui assèchent le lac suscitent des interrogations. Quelles solutions pour soulager les populations?
Malheureusement, cette secte est devenue l'un des groupes terroristes les plus violents en Afrique. Ces activités ont entraîné des répercussions vraiment profondes et dévastatrices dans la région du lac Tchad.
Aminou Mal Hadji, président du conseil d'administration de l'Institut Ruzicki d'études stratégiques, interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. Donald Trump attaque le bilan économique des démocrates lors d'un meeting en Caroline du Nord, deux jours avant un déplacement de sa rivale Kamala Harris dans le même état et sur le même thème en sport. Pas de Super Coupe d'Europe pour le Nigérian Lookman Ademola et son club italien de l'Atalanta Bergame, battu par le Real Madrid. On en parle dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Dans l'ouest du Niger, 15 civils ont été tués et plusieurs autres blessés en début de semaine par des terroristes dans la région de Tillabéri. L'annonce a été faite hier soir par l'armée. Davantage avec Abdourahmane Dia.
Dans la zone de Mehana, des éléments terroristes ont perpétré plusieurs exactions odieuses contre les populations civiles sans défense. Le bilan est lourd et tragique. 14 personnes ont perdu la vie et plusieurs ont été blessées. C'est ce qu'indique l'armée sans préciser de date dans son dernier bulletin des opérations menées entre dimanche et mercredi. Elle a ajouté que lors d'une riposte, les militaires ont neutralisé deux terroristes, brûlé une moto des assaillants et récupéré des animaux volés. Ces attaques ont visé 6 localités de la région de Tillabéri, située dans la zone dite des trois frontières, aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Selon l'armée, mardi, dans la même région de Tillabéri, un civil a été tué et 3 autres blessés lors d'un accrochage entre une de ses unités de reconnaissance et des terroristes. Fin juin, l'armée nigérienne a affirmé avoir tué un membre de l'État islamique influent localement lors d'un raid militaire près de Mehana. À la même période, 20 soldats nigériens ont été tués dans une attaque menée par des groupes armés dans le département de Tera. En réponse, l'armée avait dit avoir tué plus de 100 terroristes en une semaine.
Toujours au Niger, au moins 52 passagers à bord de deux véhicules de transport en commun sont morts noyés dans un accident dans l'ouest désertique du pays, touché par des inondations depuis juin, selon l'agence nigérienne de presse. D'importantes inondations ont déjà fait au moins 94 morts, plus de 137 000 sinistrés et 93 blessés à la date du 7 août, avait déclaré la ministre nigérienne de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Aïssa Lawan Wandarma. Les États-Unis ont appelé l'armée soudanaise à rejoindre les discussions sur un cessez-le-feu au Soudan qui ont débuté hier en Suisse en présence des paramilitaires des forces de soutien rapide, mais sans la présence de l'armée soudanaise, l'un des belligérants. Le point avec Eddy Sangou.
Nous avons souligné qu'il était de la responsabilité de l'armée d'être présente et nous continuerons à le faire, a indiqué Vedan Patel, un porte-parole du département d'État américain. L'armée soudanaise qui conteste les formats de ce pourparlers a exprimé il y a quelques jours son désaccord et boude la table des négociations. L'armée conteste la présence des Émirats arabes unis alors que les États-Unis estiment que les Émirats arabes unis pourraient avec l'Égypte être garants d'un éventuel accord. L'envoyé spécial américain pour les Soudans, Tom Perriello, a affirmé après l'ouverture de la réunion qui se tient dans un lieu secret pour des raisons de sécurité qu'il est grand temps de faire taire les armes. Des précédents cycles de négociations à Jeddah, en Arabie Saoudite, ont échoué et à la fin juillet, Washington a invité les belligérants soudanais à participer à ces pourparlers en Suisse qui doivent durer au maximum 10 jours.
L'Organisation mondiale de la santé a déclenché mercredi son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de Mpox en Afrique. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Aujourd'hui, le comité d'urgence s'est réuni et m'a fait savoir qu'à son avis, la situation constitue une urgence de santé publique internationale. J'ai accepté cet avis, a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Les 15 membres de ce comité ayant participé à la réunion ont tous estimé que les critères étaient réunis pour déclarer une urgence de santé publique internationale, a affirmé au journaliste Dimi Ogoina, le président du groupe d'experts. Décréter l'alerte maximale au niveau mondial peut permettre à l'OMS d'accéder à des fonds pour les interventions d'urgence, expliquent certains experts. L'OMS s'engage dans les jours et les semaines à venir à coordonner la riposte mondiale en collaborant étroitement avec chacun des pays touchés et en tirant parti de sa présence sur le terrain afin de prévenir la transmission, de traiter les personnes infectées et de sauver des vies, a affirmé le docteur Tedros aux journalistes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Joe Biden et Kamala Harris ont été informés hier par leur équipe de conseil à la sécurité nationale sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient, a fait savoir la Maison-Blanche sur fond de menace d'attaque iranienne contre Israël. La réunion qui s'est tenue dans la Situation Room de la Maison-Blanche a porté sur les efforts militaires des États-Unis pour soutenir la sécurité d'Israël ainsi que sur les efforts diplomatiques pour apaiser les tensions régionales et pour faire aboutir un cessez-le-feu, un accord de cessez-le-feu et de libération des otages dans la bande de Gaza. Et justement, les discussions en vue d'une trêve dans la bande de Gaza se tiennent aujourd'hui à Doha, à l'heure où le territoire palestinien subit des bombardements intensifs de l'armée israélienne. Les précisions avec Deli Diko.
Ces nouvelles discussions, menées à l'appel des pays médiateurs, Qatar, États-Unis et Égypte, se basent sur un plan annoncé le 31 mai par le président Joe Biden, qui prévoit une trêve de 6 semaines, un retrait israélien des zones peuplées de Gaza et la libération d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Elles se tiendront en présence du directeur de la CIA, William Burns, ainsi que des chefs du Mossad, le service de renseignement israélien, et patron du Shin Bet, le service de sécurité intérieure. La participation du Hamas reste incertaine. Le président Joe Biden a estimé mardi qu'un cessez-le-feu pourrait permettre d'éviter une attaque iranienne contre Israël. Téhéran a annoncé des représailles à l'assassinat du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, à Téhéran. Biden a assuré qu'il n'abandonnerait pas cet objectif, bien que les négociations pour une trêve deviennent difficiles. Il n'y a plus de temps à perdre, a dit mercredi l'émissaire américain Amos Hochstein. Il faut un cessez-le-feu pour éviter l'embrasement au Proche-Orient.
La présidente de l'Université Columbia, Minouch Shafik, a annoncé sa démission invoquant la période de crise du printemps quand le campus new-yorkais fut l'épicentre des manifestations étudiantes contre la guerre à Gaza. Cette économiste américaine d'origine égyptienne l'a annoncé dans une lettre à la communauté enseignante et étudiante, faisant état de menaces, d'insultes, voire de mauvais traitements contre elle, des collègues et des étudiants. Columbia, qu'elle dirigeait depuis juillet 2023, a été l'une des premières à se mobiliser au début de la guerre que conduit Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Donald Trump a vertement critiqué hier le bilan économique des démocrates lors d'un meeting en Caroline du Nord 2 jours avant un déplacement de sa rivale Kamala Harris dans cet état clé. Et sur le même thème, le candidat républicain a accusé la vice-présidente d'avoir jeté des milliards de dollars par la fenêtre. « Votez Trump et votre budget essence va chuter, tout comme vos factures de climatisation et de chauffage », a assuré l'ancien président, promettant de réduire les prix de l'électricité et de l'énergie de moitié en un an. Kamala Harris et Donald Trump se livrent cette semaine à un duel à distance en Caroline du Nord, l'un des États les plus susceptibles de peser lors de la présidentielle du 5 novembre. Google a indiqué hier qu'un groupe de pirates informatiques affiliés à l'Iran, APT-42, ciblait les campagnes de Kamala Harris et Donald Trump, confirmant les soupçons et accusations de leur équipe de campagne. En mai et juin, APT-42 s'est attaqué au compte de messagerie personnelle d'une douzaine de personnes affiliées au président Joe Biden et à l'ancien président Donald Trump et des personnes associées aux campagnes respectives, a déclaré un responsable de Google. Selon le géant de l'Internet, les pirates tentent d'entrer en contact avec leurs cibles en se faisant passer pour des journalistes, par exemple, puis envoie des emails contenant des faux liens qui permettent ensuite d'avoir accès au courriel des individus piégés. Lundi, les États-Unis ont averti l'Iran sur les conséquences d'une ingérence dans l'élection présidentielle américaine. États-Unis toujours, Glyn Simons, un Africain-Américain de 71 ans, va recevoir 7,15 millions de dollars de dédommagement après avoir croupi près d'un demi-siècle en prison. Il avait été condamné à mort en 1975. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Place aux nouvelles économiques, c'est la Minute Éco avec Jacques Aristide.
Au Nigeria, l'armée a détruit au moins 27 raffineries illicites de pétrole au cours de raids menés cette semaine dans le delta du Niger. Elle a également saisi du pétrole brut volé, le vol de pétrole à grande échelle et le sabotage des oléoducs ont entravé la production du Nigeria, détrôné en avril dernier par la Libye de son statut de premier producteur de pétrole en Afrique. La baisse des exportations nigérianes ces dernières années paralyse les finances du gouvernement du président Bola Tinubu. Au Rwanda, le gouvernement a paraphé mercredi un protocole d'accord avec l'entreprise américaine Nano Nuclear Energy pour la construction de petits réacteurs nucléaires ou SMR. En déplacement au Rwanda, le PDG de Nano Nuclear Energy, James Walker, a déclaré que la construction d'un réacteur test interviendrait dans les prochaines années. D'après Fidel Ndayayo, directeur de l'autorité de l'énergie atomique rwandaise, les technologies SMR sont actuellement en cours de développement et le Rwanda souhaite faire partie du processus de développement. La production mondiale de céréales et d'oléagineux s'annonce généreuse cette année, ce qui fait chuter leurs prix mondiaux et oublier les pics historiques d'il y a 2 ans. Selon le rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture publié cette semaine, la production mondiale de blé pour la campagne 2024-2025 est attendue à 798 millions de tonnes, celle de maïs à près d'1,22 milliard de tonnes et celle de soja à 429 millions de tonnes. Par rapport à la campagne 2014-2015, c'est environ 10% de blé en plus, 20% de maïs et 34% de soja.
Sans transition, les nouvelles sportives avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
L'UEFA détaille le tirage au sort automatisé des Coupes d'Europe.
L'UEFA a détaillé mercredi la nouvelle automatisation du tirage au sort du premier tour de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence qui aura lieu les 29 et 30 août à Monaco. Cette automatisation accompagne le nouveau format de ces compétitions. Dans chacune d'elles, 36 équipes vont faire partie d'une même ligue avec l'objectif de finir aux 8 premières places du classement, directement qualificatives pour les 8e de finale. Les 8 autres billets se joueront par des matchs de barrage. Pour ce faire, les équipes sont réparties dans 4 chapeaux. Chacune d'entre elles affronte 8 clubs de chaque chapeau, avec pour chaque chapeau un match à l'extérieur et un match à domicile. Seule la Ligue Europa Conférence diffère avec 6 matchs contre 6 équipes parmi les 6 chapeaux existants, 3 à l'extérieur, 3 à domicile. Chacun des 36 clubs a commencé par ceux du pot 1, puis en descendant vers le pot 4 ou 6 pour la Ligue Europa Conférence, verra sa boule tirée au sort dans le saladier, avec ensuite l'affichage en temps réel de ses adversaires.
Football toujours, Messi absent pour l'entrée de l'Inter Miami contre Columbus en League Cup.
La star argentine Lionel Messi n'a pas été retenu par son entraîneur pour le match d'ouverture de son club, l'Inter Miami contre le champion 2024 de la MLS, Columbus, en League Cup, un tournoi réunissant des équipes de la MLS, Ligue Nord-Américaine, et du championnat du Mexique. Lionel Messi, 37 ans, n'est toujours pas rétabli de la blessure à la cheville droite subie en seconde partie de la finale de la Copa América remportée par l'Argentine contre la Colombie début juillet. Il n'est pas revenu à l'entraînement depuis. Et avec toi, Yacouba, les résultats de la finale de la Supercoupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame.
Oui, Eric, une Supercoupe d'Europe remportée à Varsovie 2-0 par le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions devant l'Atalanta Bergame, lauréat de la Ligue Europa. L'histoire ne pouvait pas mieux commencer. Kylian Mbappé a réussi ses grands débuts avec le Real en menant son équipe vers un 6e sacre en Supercoupe d'Europe. Le nouveau numéro 9 de la Casablanca a doublé la mise à la 68e minute après l'ouverture du score signé Federico Valverde, permettant au roi d'Europe de lancer parfaitement sa saison. L'attaquant nigérien de Bergame, Lookman Ademola, était titulaire, mais n'a pas été décisif.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, les autorités mènent depuis janvier une nouvelle campagne de déguerpissement dans les quartiers précaires pour réduire les impacts des inondations et des glissements de terrain qui tuent des dizaines de personnes chaque année. Amnesty International demande l'arrêt immédiat de ces opérations et exhorte le gouvernement à indemniser les victimes. L'ONG dénonce l'usage excessif de la force, soulignant que des milliers d'habitants ont été forcés de quitter leur domicile. Nanit Talani a joint à Abidjan Hervé Delmas Koku, directeur exécutif d'Amnesty Côte d'Ivoire.
Ce que nous dénonçons vraiment dans ce communiqué, c'est cette absence de protection de la population par l'État de Côte d'Ivoire. On voit que l'État de Côte d'Ivoire a manqué à ses obligations découlant de la Charte africaine des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qu'ils ont ratifié. Au-delà de ça, ces personnes ont été déguerpies sans aucun avertissement. C'était dormait. Des élèves étaient en classe et des écoles ont été détruites. Des enfants se retrouvent sans d'autres établissements. Rien n'était prévu au préalable. Il y a toute une population qui est dans le désordre total.
Que dire des justifications du gouvernement ivoirien qui affirme que ces expulsions servent à limiter les impacts des glissements de terrain et des éboulements qui, chaque année, causent des dizaines de milliers de morts?
Oui, nous ne disons pas le contraire, mais au préalable, vous aurez dû quand même informer ces populations-là. Consulter d'abord ces populations, les informer au préalable des notifications. Mais malheureusement, ces populations n'ont pas été prises en compte. Le gouvernement n'a pas effectué un recensement. Il ne sait pas combien de personnes il y a dans ces quartiers qui disent qu'il fallait déguerpir. Nous sommes dans ce désarroi parce que c'est une fois les populations expulsées et que des efforts maintenant sont faits pour les comptabiliser, des efforts sont faits pour voir où les reloger ou même les dédommager, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent.
Pourtant, le gouvernement a annoncé des mesures d'aide au relogement et à l'indemnisation.
Il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau des GDSRO 1. Une partie des personnes ont été indemnisées à raison de 250 000 francs CFA. Tout le processus devait être mis en place par la primature, par le cabinet du Premier ministre. Nous avons adressé un courrier, une demande d'audience à la primature, il n'y a pas eu de suite. Et même le communiqué sur lequel nous communiquons, l'ont envoyé à la primature depuis le mois de juillet jusqu'à la date du 5 août, n'ont pas eu de réponse.
Quelle est l'étendue des conséquences de ces expulsions?
Les conséquences sont énormes parce qu'il y aurait des milliers de personnes dispersées dans toute la ville d'Abidjan, peut-être dans toute la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas relogés, qui ne savent pas où aller. Des milliers d'élèves qui ont perdu l'année scolaire parce qu'une école a été détruite en plein cours, en pleine année scolaire. D'autres ont arrêté des études. Une école coranique a été détruite au Nouveau Banco. Il y a au moins 500 élèves qui ont perdu une année entière. Et vu les conditions de vie des personnes qui vivaient dans ces quartiers, c'est des personnes vulnérables, des personnes pauvres, nous sommes plus ou moins certains que beaucoup, beaucoup d'enfants ne retrouveront plus jamais le chemin de l'école.
Que demandez-vous aux autorités ivoiriennes?
Nous demandons aux autorités ivoiriennes d'indemniser ces personnes, de localiser si possible ces personnes, d'indemniser ces fermiers, plus de 133 fermiers qui ont vu tout leur bétail parti en fumée, détruit totalement. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire qui se proclame toujours comme un État de droit, de respecter le contenu de ces tests-là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord recenser la population, donner temps suffisant pour pouvoir déguerpir, les indemniser si possible, mais aucun de ces dispositions n'a été pris en charge. Si ce n'est pas possible de respecter ces tests, autant ne pas effectuer les expulsions forcées.
Hervé Delmas Koku, directeur exécutif d'Amnesty Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Nigeria, le président Bola Tinubu a récemment lancé le très attendu fonds nigérien de prêt à l'éducation, en soulignant l'importance de l'éducation en tant qu'outil vital dans la lutte contre la pauvreté et dans la réalisation du développement national. Jusqu'à présent, plus de 110 000 demandes de prêts ont été reçues. Quel est l'impact de ces prêts sur les études au Nigeria? Le reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Le jour du lancement de ce programme de prêt étudiant, le président Bola Ahmed Tinubu a affirmé qu'il croit que l'éducation est la meilleure arme pour lutter contre la pauvreté dans toute société.
Without education, there is no vision.
Sans éducation, il n'y a pas de vision.
Without education, there is no development.
Sans éducation, il n'y a pas de développement. Sans éducation, vous ne pouvez même pas vaincre la pauvreté, l'insécurité et les abus dans une société.
Pour les autorités fédérales, cette initiative marque une étape importante dans la lutte contre les obstacles financiers à l'éducation et dans l'autonomisation des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs aspirations académiques. À l'université d'Abuja, les étudiants sont divisés sur l'initiative et beaucoup de questions restent sans réponse. Certains pensent que les conditions sont trop dures et empêchent les enfants des familles pauvres de bénéficier de ce prêt.
La vraie question maintenant, est-ce que ce programme est pratique? Quelle est son efficacité? Dans quelle mesure cela peut-il aider un étudiant? Si vous regardez certains des critères, ils sont un peu volumineux et si votre objectif est réellement ciblé sur certaines familles à faible revenu, comment pourront-elles répondre à certains critères?
J'ai visité le site web qu'on m'a donné et j'ai vu la liste des critères qui sont énumérés pour pouvoir obtenir ce prêt. Et à partir de ces critères, je peux vous dire catégoriquement que ce prêt n'est qu'une démagogie. Il n'est pas destiné aux populations ordinaires, ce n'est pas destiné aux jeunes ordinaires.
Un autre point de débat est que le prêt est réservé seulement aux étudiants des universités publiques et non aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur privé. Goodness Abba, étudiante en droit public.
Eh bien, l'initiative vient d'être lancée et je crois que le gouvernement trouvera des moyens de la rendre plus inclusive. Alors peut-être qu'il y a un ou deux problèmes pour lesquels ils estiment qu'elle devrait commencer par les universités publiques, car les universités publiques ont en réalité plus d'étudiants et plus de personnes continuent de postuler pour avoir accès que les universités privées. Alors peut-être qu'ils veulent d'abord atteindre ce nombre de jeunes avant de l'élargir.
Le président a approuvé 35 milliards de naira pour le lancement du programme ciblant 70 000 candidats pour un début. Selon les statistiques, il y a plus de 100 000 étudiants dans les universités privées contre plus de 2 500 000 dans les universités publiques, ce qui indique que le secteur privé représente moins de 6% de la population étudiantine au Nigeria. Pendant des décennies, les frais de scolarité ont été maintenus à un niveau peu élevé pour encourager les inscriptions dans un pays où beaucoup sont pauvres et où le taux d'analphabétisme est très élevé. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, la crise anglophone et la situation dans l'extrême nord du pays continuent à alimenter l'actualité. Les efforts en vue de ramener la paix dans les régions anglophones et finir avec les attaques des extrémistes de Boko Haram ont été parmi les questions évoquées dans une interview que l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis a accordée à la Voix de l'Amérique. Henri Etundi Essomba est au micro d'Antoine Roger Bolamba.
Il y a une structure qui a été mise en place pour répondre aux attentes des manifestants qui étaient à l'origine, c'était une manifestation aux corporatistes, les avocats et les enseignants. Et puis, à la faveur des négociations tendues, du dialogue s'est élargi. Donc, on a apporté des réponses immédiates aux premières revendications de ces groupes corporatistes. La question plus large aujourd'hui a été pour le gouvernement, plutôt que de se cantonner à régler des questions sectorielles, il fallait prendre l'ensemble des questions qui concernent ces deux régions et créer un cadre qui permette donc d'en discuter et de mettre en place des solutions adaptées.
Par rapport d'ailleurs à cela, parce que le président a initié déjà tout un cadre pour résoudre la crise, mais encore la situation dans l'extrême nord du Cameroun qui continue à subir les attaques des extrémistes de Boko Haram. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela?
Bon, vous savez, ici, c'est un vrai cas typique qui doit amener à réfléchir. Vous savez que cette guerre, nous ne l'avons pas voulu. Nous ne l'avons ni voulu ni provoqué. Nous subissons façon collatérale les conséquences d'un conflit interne au Nigeria. Mais la proximité géographique de notre pays avec ce grand pays voisin fait qu'il y a des débordements. Donc je pense qu'il y a là aussi des choses qui ont été faites. Parce que la première des choses, c'est que le Cameroun a défendu son intégrité territoriale. Quel que soit ce qui se fait aujourd'hui, il n'y a pas un centimètre du territoire national qui soit sous le contrôle de ces forces-là. Il y a des incursions pour venir poser des actes de violence. Nous avons renforcé la sécurité dans ces régions. Malheureusement, même sur ce plan-là, au plan sécuritaire, il est difficile de placer des membres des forces de l'ordre à chaque centimètre.
Henri Etundi et Somba, ambassadeur du Cameroun aux États-Unis.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
La région du bassin du lac Tchad subit depuis plusieurs années des attaques terroristes du groupe Boko Haram et les effets du changement climatique qui assèche le lac. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, vient d'annoncer une nouvelle phase de son programme de stabilisation dans la région. Mohamedou Oumfa a interrogé Aminou Mal Hadji sur les pistes de solutions pour soulager les populations de cette région. Il est le président du conseil d'administration de l'IRES, l'Institut Rumsiki d'études stratégiques.
La région du bassin du lac Tchad, c'est une vaste zone géographique située au cœur de l'Afrique, en particulier en Afrique centrale, englobant des parties du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Cameroun. Ce bassin couvre en fait une superficie de l'ordre de 2,3 millions de kilomètres carrés et abrite dans les 50 millions d'individus. Et historiquement, le lac, autrefois l'un des plus grands lacs d'eau douce du monde, a été le centre vital de la région, fournissant de l'eau pour l'agriculture, pour la pêche et l'élevage.
Cette région a subi, évidemment, et continue d'ailleurs de subir les attaques du groupe terroriste Boko Haram. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact que ces attaques, que cette insécurité causée par le terrorisme a eu sur la région du bassin du lac Tchad?
La région est vraiment dramatiquement affectée par des défis sécuritaires, notamment avec la présence de ces groupes armés tels que Boko Haram, qui ont déstabilisé la région, provoquant des déplacements massifs de population et une crise humanitaire persistante. Malheureusement, cette secte est devenue l'un des groupes terroristes les plus violents en Afrique. Ces activités ont entraîné des répercussions vraiment profondes et dévastatrices dans la région du lac Tchad, affectant non seulement le Nigeria où elle est née, mais également les pays voisins tels que le Tchad, le Niger, le Cameroun. Et en somme toute, ces attaques-là nous ruinent l'économie et handicapent tout développement parce que ça affecte les écoles, par exemple, ne peuvent pas ouvrir parce que des attaques peuvent arriver, les routes peuvent être bloquées, limitant le commerce. Et ensuite, les enlèvements pénalisent les familles. Donc, c'est une catastrophe qu'il faut à tout prix combattre et éliminer.
Le programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, vient d'annoncer le lancement de la nouvelle phase de son programme de mécanisme de stabilisation régionale qui se déroulera de septembre 2024 à août 2028. Selon vous, quelles devraient être les priorités de ce programme pour qu'il soit véritablement utile à la région?
Les priorités, c'est les financements qui permettent, par exemple, à sécuriser tout le mouvement des populations pour être certain que ces populations ne sont pas délaissées. Et ensuite, il faut entamer tous les travaux pour les infrastructures pour être certain que ces populations ont de l'eau potable, qu'ils sont bien soignés et que les écoles sont ouvertes. Et il ne faut pas oublier pour le long terme, bien sûr, l'appel à tous ces financements pour qu'ils se réalisent, pour mettre en place tous les projets qui tournent autour de ce lac, pour lui permettre de refleurir. Ne jamais oublier que tous ces développements doivent être bien accordés avec les aspects environnementaux, c'est-à-dire par exemple reboiser cette région pour empêcher le désert d'avancer.
Aminou Mal Hadji, président du conseil d'administration de l'Institut Rumsiki d'études stratégiques. C'est c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouédraogo, Georges Léonard Sagnot à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.